Alors,
je vais commencer par une petite histoire. Hein, c'est un soir lorsque le papa termine le culte familial. Son petit garçon prie à son tour. Et là, il dit, « Seigneur, merci pour la belle journée. Bénis mes amis. Aide-moi à être sage à l'école et à obéir, c'est-à-dire à mes parents. » Et là, soudainement, il se met à parler fort et dit, « Hé Seigneur, tu sais combien j'aimerais avoir une bicyclette à Noël! » Et là, son père lui dit, « Garçon, t'es pas obligé de crier. Le Seigneur n'est pas sourd. » Ce garçon, il dit, « Je le sais que le Seigneur n'est pas sourd, mais grand-maman qui est assise à l'autre côté, elle est sourde. » On continue ce matin avec le motif, hein? Le motif de nos actions sur les raisons qui nous motivent à vivre et à servir Dieu. Et ce matin, on va voir la prière dans notre vie. On va le voir en deux parties. Lorsque je reviendrai de vacances, après ça, je continuerai la deuxième partie. Mais trouvez-vous que c'est difficile de prier? Hein? C'est pas toujours facile. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez prié en groupe? Moi, je m'en souviens, en tout cas. Vous savez à quel point c'était pas facile. Pourquoi? Parce que on entend les autres prier, puis là, tout d'un coup, on trouve ça difficile, puis on est surtout préoccupé par ce que les autres vont penser de notre prière. Est-ce que je vais avoir les bons mots pour m'exprimer? Parce que vous savez, des fois, lorsqu'on arrive dans une église chrétienne, il y a comme un genre de tournure de phrase. Puis ça, bien, souvent, là, ça éloigne les gens. Tu sais, moi, c'est pas bon de prier comme ça. Est-ce que je vais avoir de l'air trop spirituel ou peut-être pas assez? Puis combien de fois je vais répéter le mot Seigneur? Hein? Seigneur, 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 Seigneur. On est mal à l'aise. Hein? Parce que nous sommes convaincus que tout le monde qui est dans la salle va évaluer notre vie par les paroles que nous allons dire dans la rencontre de prière. Et en plus, vous connaissez sûrement ceux qui prient pour faire passer leur message. Hein? Seigneur, tu sais que je vais visiter cette sœur-là demain et que je dois lui parler de son péché de langue et qu'elle ne sera peut-être pas ouverte à mon exhortation et que je n'aime pas me faire rejeter car depuis mon enfance, j'ai connu trop souvent le rejet. Bon, il y en a qui vont dire, « Bien, moi, je me lève à 6 heures le matin pour te prier, Seigneur. » Tu sais, je veux dire, ces exemples de prière-là, là, ça ne veut pas dire que c'est pas mal de le faire, mais fallait tout seul dans ta chambre si tu veux prier comme ça. Mais lorsqu'on prie en groupe, ce genre de prière-là, ce n'est pas la bonne manière de prier. Car ces personnes-là ne s'adressent pas à Dieu, ils s'adressent à l'audience. Autrement dit, sachez que demain, je m'en vais parler avec cette sœur-là. Hein? Je suis spirituel, moi. Maintenant, si on revient au texte, on va parler du contexte. On est toujours dans cette troisième section-là du sermon sur la montagne. Et Jésus continue de nous instruire. Hein? Jésus, c'est ça son but, c'est qu'il veut qu'on connaisse le sens de la véritable justice, la justice de la prière. La semaine passée, on a vu la justice dans les offrandes. Là, on voit la justice dans les prières, puis plus tard, on va voir, Dieu voulant, la justice lorsqu'on fait jeûne. Il y a aussi la justice dans nos services. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? On a vu que Jésus introduit cette nouvelle section-là au chapitre 6, verset 1, avec cette affirmation-là. Hein? Regardez bien ce qu'il dit. Gardez-vous. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Questionnons-nous lorsque nous faisons une action pour servir le Seigneur. Est-ce que je le fais pour être vu ou pour glorifier Dieu? Et là, il continue autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Laissons pas la chair dominer l'esprit. La chair veut que tout le monde le sache que je fais ça. Mais Dieu veut pas. Dieu veut que tu le fasses en silence, de façon à ce que s'il y en a d'autres qui le voient, tant mieux, mais tu le fais pas, toi, dans cette perspective-là, de vouloir, autrement dit, épater l'entourage. Et là, tu vas avoir ta récompense. Le mot justice peut englober, comme j'ai dit tantôt, toutes les pratiques du croyant, la prière, le service, les offrandes, et aussi, j'ai dit, lorsqu'on jeûne. De plus, Jésus fait une mise en garde sévère. Gardez-vous. Hein? Une expression qui est forte, qui dit d'être sur le qui-vive. C'est le fait d'être déterminé à faire attention. Gardez-vous. Et si le Seigneur nous dit ça, gardez-vous, c'est parce qu'il y a un danger. Il y a un danger d'orgueil. Donc, ce que Jésus fait, il fait une mise en garde contre l'hypocrisie religieuse avec trois exemples. On a vu l'offrande, on va voir la prière et ensuite, on va voir le jeûne. Et juste pour vous dire, c'est que ces trois exemples-là étaient les exigences pratiques. On exigeait ça dans la vie pratique de chaque Juif. Ces trois exemples-là étaient les plus importants d'une piété individuelle dans le monde des Juifs. C'était important dans la vie de chaque jour de chacun des Juifs nés sur la terre. Donc, à partir des versets 5 et 8, et plus tard on verra versets 9 et 15, Jésus va enseigner à quoi ressemble la prière qui déplaît à Dieu et celle qui plaît à Dieu. Mais avant, je veux juste vous dire, pour nous aider justement à comprendre le sens de la prière, il va utiliser deux exemples. OK? Et là, il veut, le Seigneur, nous instruire sur les caractéristiques d'une prière qui déplaît à Dieu et d'une prière qui va plaire à Dieu. Mais ce matin, c'est une introduction. Et on va aller dans un bout de prière court pour introduire justement le message. Alors, Seigneur, devant ce texte de ta parole, devant la prière, Seigneur, qui est parfois difficile dans la vie de nous, des chrétiens, puisses-tu nous instruire ce matin sur cette conversation qui est tellement plaisante avec toi, sur le fait d'apprendre à converser avec toi tous les jours, toi qui es notre Papa du ciel, et de converser avec toi par le nom de Jésus. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs et qu'on puisse être disponible. On puisse être disposé à entendre ce message de ta parole. Et c'est par Jésus qu'on prie. Amen. Ce qui en est de la prière. D'abord, Jésus s'attend à ce qu'on prie. Si tu es un chrétien né de nouveau ce matin, Jésus s'attend à ce que tu pries. Et comme on l'a vu, Jésus ne met pas en question l'importance de pratiquer des disciplines chrétiennes comme l'offrande, la prière ou le jeûne. C'est pas ça qui est en question. C'est le motif. Et en plus, Jésus ne dit pas « si tu pries », mais plutôt il dit « lorsque tu pries ». C'est pas au conditionnel, là, « si tu pries », non. « Lorsque tu pries ». Donc, Jésus s'attend à ce que tous ses enfants prient. Parce qu'il a enseigné et démontré par sa propre vie qu'il est important de prier. Maintenant, que veut dire le mot « prier » ? Il y a plusieurs façons de décrire la prière, puisque la prière touche plusieurs aspects de la vie chrétienne. Le mot hébreu pour prière vient de l'idée d'appeler à haute voix. Donc, les Hébreux utilisaient ce mot pour exprimer plusieurs choses. J'ai été voir dans le dictionnaire biblique, et puis ça peut être la voix, le cri, crier, demander, bruit, tonnerre, son, publier, parole, bêlement, instance, murmure, faire retentir, rugissement, en tout cas, il y en a plusieurs. Tout ça vient de la racine du mot « prier ». Ainsi donc, on pourrait dire, juste pour ramener ça un petit peu, c'est que le mot « prier » fait référence à la voix, le son et au bruit. Dans le Nouveau Testament en grec, il y a trois mots qui sont utilisés. Le premier mot a le sens de pétition, une pétition. C'est-à-dire, il donne la priorité à l'expression d'un besoin qui est personnel. Un besoin qui est personnel. Le deuxième, c'est un mot de caractère sacré, qui est limité à la prière, par contre. Il exprime un accès à Dieu en se confiant en lui. Et ce deuxième mot-là fait référence à la confiance qu'on a dans le Seigneur. La confiance comme celle d'un enfant. Hein? Voyez un petit enfant de combien qu'il suit ses parents. Il est en confiance. Il représente la prière comme étant une conversation qui vient du cœur et qui est tournée vers Dieu. Et la troisième, c'est, on peut dire que le mot « prier » peut être utilisé pour une requête adressée à un homme. Autrement dit, une dévotion qui comprend l'élément de la dévotion. Donc, finalement, prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Hein? On peut vraiment savoir de midi à 14h, c'est quoi? Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est mon âme qui s'élève en la présence de Dieu. C'est comme une conversation, un dialogue dans lequel Dieu nous parle par sa parole et nous lui répondons en priant. Dieu nous parle dans sa parole. Et on lui répond en priant. Lire sa parole et en même temps prier notre grand Dieu. Quelle belle conversation. Victor Hugo a dit ceci. Il voulait décrire la vraie signification de la prière. Il a dit, il y a des moments où, quelle que soit l'attitude du corps, l'âme est à genoux. Peu importe mon attitude, le corps, c'est mon âme qui est à genoux. Et la prière, c'est une attitude du cœur qui s'humilie devant Dieu et qui déclare en silence, « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux pas faire rien. » Tout seul. J'ai besoin de toi. Maintenant, je vais passer rapidement, Et inquiétez-vous pas, il y a 10 affirmations au sujet de ce qu'est la prière. Dans ce qu'on vous a remis ce matin, et j'espère que tout le monde en a une copie, vous avez un feuillet qui va vous rappeler ces 10 affirmations-là. Si vous voulez prendre des notes, vous avez l'autre côté de la page pour le faire. Mais ceux qui n'ont pas reçu, voulez-vous lever la main? S'il y en a. Luc n'a pas reçu. OK. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je pense que oui. Les 10 affirmations. Il doit y en avoir d'autres, mais imprimer une quarantaine. S'il y en a deux, c'est pas grave. Donne-en une à l'épouse Aline. En a une, Lynn? OK, excusez-moi. Donc, la prière en premier, c'est le premier pas vers la connaissance de Jésus-Christ. Ramenons-nous un peu à notre conversion. Il est impossible, frères et sœurs, de connaître personnellement Jésus-Christ sans la prière. La prière nous met en contact avec le Seigneur Jésus. Romains 10, verset 13, nous dit ceci. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Je vais vous parler un peu du mot « invoquer ». Le mot « invoquer » ici fait référence à la communication entre la personne et le Christ. Donc, si celui qui invoque est sauvé, celui qui n'invoque pas n'est pas sauvé. Donc, notre salut commence par la prière. On veut communiquer avec le Seigneur. On veut lui dire qu'on est des pécheurs et qu'on lui demande pardon. Ça commence comme ça. Et ensuite, on lui parle que l'on croit en Jésus-Christ, à son sacrifice parfait. Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Maintenant, mes péchés passés, présents et à venir sont pardonnés. Maintenant, Seigneur, montre-moi à marcher devant toi, ou après toi, c'est-à-dire, de façon à ce que je puisse te suivre dans ta parole. Donc, sans prière, il n'y a pas de salut. La prière, c'est aussi reconnaître la présence de Dieu. C'est l'occasion, je dirais, de connaître davantage notre Père céleste. Et ça peut comprendre ou ne pas comprendre des paroles ou des émotions. Mais quand même, en lisant la parole, en priant avec la parole, on apprend à connaître davantage notre Père céleste. Cette prière-là nous fait entrer directement dans le lieu très saint. Souvenez, dans l'Ancien Testament, le lieu très saint, il y avait juste le sacrificateur qui pouvait rentrer une fois par année, puis on y attachait une corde dans le cou qui meurt en chemin parce que personne ne pouvait entrer là. Mais nous, Hébreux nous dit, on a un libre accès. Donc, on peut entrer directement dans le lieu très saint, devant le trône de la grâce, comme nous dit Hébreux 4:16. Approchons-nous donc avec assurance. Pas avec crainte. Avec assurance. Du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On a un accès auprès du Père, un accès continuel. La seule chose qui peut interrompre ça, c'est le péché. Mais on sait qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, par qui on peut aller, et on demande pardon, et on sait que Dieu va nous pardonner. Troisièmement, la prière, c'est l'un des moyens par lesquels l'homme peut connaître Dieu intimement. on ne doit pas seulement connaître Dieu en disant « Je connais beaucoup de choses sur Dieu. » Ça ne marche pas comme ça. Il y a du monde là, qui peut-être pourrait, soit être assis ici ou qui sont ailleurs, qui ont une connaissance plus grande que chaque que nous ici. Mais c'est juste une connaissance. Ça n'a pas été au cœur encore. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas sauvés. La prière, c'est le moyen de connaître Dieu intimement, d'avoir une relation intime avec notre Seigneur. On doit, frères et sœurs, avoir une relation personnelle avec lui. C'est ce qui nous approche de lui. C'est ce qui fait qu'on peut dire « Abba, Père ». Un couple, hein, ne peut pas développer son intimité seulement en passant du temps ensemble. Impossible. Tu peux aller à tous les restaurants, tu peux aller assis dans le salon, un à l'autre bout, puis... Non. Tu dois apprendre à communiquer, à partager ensemble. C'est ce qui fait un couple. Et les couples sont divisés dans leur maison. Jamais le temps de parler. Où est la relation? On ne peut pas connaître Dieu intimement à moins de passer du temps avec lui dans l'intimité de la prière. Et le psaume 145, verset 18, nous dit ceci. L'Éternel est très près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est la parole de Dieu là, qui nous dit que tous ceux qui prient et qui veulent avoir une relation personnelle avec Dieu, bien le Seigneur est là et il est prêt. Il est prêt de tous ceux. Alors c'est une belle chose. Quatrièmement, la prière, c'est la façon de saisir les promesses de Dieu. Je ne sais pas, quand vous lisez la Bible, si vous vous attardez aux promesses, vous les soulignez, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Parce que la Bible, elle est remplie d'un bout à l'autre de promesses qui sont à la disposition de tous ceux et celles qui puisent, tous ceux qui vont puiser dans le réservoir de la puissance de Dieu. Si la Bible est fermée continuellement chez vous parce que tu ne veux pas prendre le temps de lire, il y a d'autres choses qui sont plus importantes, comment peux-tu connaître les promesses de Dieu? Comment peux-tu savoir dans les temps de détresse que ton Dieu est là pour toi, pour t'aider, pour te sauver de la situation? Tu sais peut-être de connaissance, mais tu ne sais pas de cœur parce que tu n'as pas pris le temps de t'asseoir puis de méditer sur ce que le Seigneur a à dire dans sa parole. Richard Trench a dit ceci: prier, ce n'est pas de venir à bout de la résistance de Dieu, c'est de saisir le fait que Dieu veut exaucer. Hein? Et la prière devrait être, notre prière devrait être: Dieu, viens m'exaucer. Selon ta volonté, c'est sûr, parce que le Seigneur, il sait ce qu'on a besoin. Souvent, on va demander des choses que peut-être on n'a pas de besoin, puis ça va nous nuire. Mais non, le Seigneur va nous donner exactement ce qu'on a besoin, à sa façon, selon sa volonté. Tout ce que l'homme doit faire, et quand je dis l'homme, c'est la femme aussi, c'est de saisir ces grandes promesses-là par le moyen de la prière, comme nous le dit Matthieu, hein, chapitre 7, versets 7 et 8. « Demandez et l'on vous donnera. » Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. J'étais un petit peu en avance dans la préparation de ce message. Et je peux vous dire qu'il y a une portion de ce verset, de ces deux versets-là que je vais expliquer encore plus la prochaine fois. Mais c'est donc caractéristique de qu'est-ce que c'est qu'on doit faire, de demander, de chercher, et l'on va trouver. Cinquièmement, la prière, c'est le sentier vers la force et la paix. Vous savez, c'est rare sont les chrétiens qui se vantent d'avoir une paix personnelle sans jamais prier. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Personne qui ne prie pas ne peut pas avoir une paix personnelle avec Dieu. Parce que la prière, c'est la clé qui ouvre la porte, qui mène à la paix de Dieu. Regardez bien ce que Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Ça commence bien, hein? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et regardez bien ce qui suit. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, autrement dit, tu comprendras pas. Tu vas être flabbergasté, je ne sais pas comment ce qu'ils disent, ce mot-là. La paix de Dieu gardera. Pardon? Qui a dit ça? Moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé. Cette paix-là gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'ai besoin de cette paix-là. Je la veux. Et c'est Dieu qui va me la donner. La paix qui surpasse toute intelligence, c'est la paix divine, la paix de Dieu. Et tout cela vient par la prière. Sixièmement, la prière, c'est le moyen par lequel l'homme peut toucher Dieu et être plus près de lui. Hey, y en a-tu ici qui veulent être plus près de Dieu? On chante « Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. » C'est un peu comme la femme qui était malade depuis 12 ans et qui a touché le vêtement de Jésus afin d'être guérie. Prends de la foi pour faire ça. Mais c'est la même manière. La prière nous permet de toucher Dieu afin d'être secouru dans nos besoins. La prière, c'est le moyen par lequel le chrétien peut faire appel au pouvoir de Dieu. Dieu est tout puissant. Et de la même manière, un prédicateur a dit ceci, le maître ne peut être touché sans qu'il le sache. Si on se souvient de l'histoire, évidemment, le Seigneur Jésus a réagi tout de suite lorsque la femme l'a touché. Donc, si on veut aller vers Dieu, le toucher, le Seigneur le sait. Lorsqu'un besoin le touche, Dieu fait appel à son pouvoir afin de répondre à ce besoin. Et la prière est le moyen par lequel nous le touchons. Vous savez, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la prière, et même à la réunion de prière, j'amène quelquefois des messages par rapport à ça, parce que je crois que la prière, c'est important. Je crois que si on n'apprend pas à communiquer avec notre Dieu, parce qu'on vient d'un passé qui, c'était des prières automatiques. Et souvent, on récitait ces prières-là sans y penser. Il y a des personnes qui sont sincères, qui ont fait des bonnes prières. Mais
Comment de fois on a récité des choses sans penser à vraiment ce qu'on fait. Puis je parle même pour les chrétiens d'aujourd'hui. Le septième point, c'est le moyen par lequel, la prière, c'est le moyen par lequel l'homme comprend le plan de Dieu. Comment est-ce qu'on peut connaître ce qu'une autre personne pense? Comment est-ce que je peux connaître ce qu'une autre personne désire? C'est en communiquant avec elle, hein? C'est la même chose avec dans notre relation avec Dieu. Par contre, son plan c'est-à-dire pour connaître son plan dans notre vie, parce qu'on a chacun un plan, on doit lire la parole de Dieu, puis on doit lui parler. Encore une fois, le temps qu'on prend pour lire sa parole, chaque matin, chaque jour, on va devant lui. On a peut-être lu ce passage-là 150 fois, c'est pas grave. J'ai besoin de le relire encore parce que Dieu a peut-être quelque chose là-dedans. Ou peut-être, certainement quelque chose là-dedans pour moi. Je veux te connaître de plus en plus à tous les jours, Seigneur. Je veux me rapprocher de toi. Je veux pas en connaître plus. Je veux te connaître. La prière nous rappelle notre besoin constant de Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu. Et la prière va nous rassurer aussi que Dieu est présent à chaque jour avec nous. Vous savez, la prière fait partie du plan de Dieu. Et elle fait partie du plan de Dieu pour qu'on puisse grandir pour notre croissance et aussi pour qu'on connaisse davantage c'est quoi que Dieu veut dans notre vie. C'est quoi, Seigneur, ton plan pour moi? Dans la prière, on ne dit pas à Dieu ce qu'il doit faire, hein? Mais on découvre ce que lui veut que nous fassions. Huitièmement, la prière, c'est le muscle de l'omnipotence de Dieu. On sait que Dieu est tout puissant. Donc, le muscle de l'omnipotence de Dieu, c'est un muscle qui est tout puissant. On sait tous que la vie chrétienne n'est pas une vie qui est facile. Pas besoin de vous le dire plus. C'est une vie qui est remplie de luttes, de tentations, de victoire et de défaite. C'est ça, la vie chrétienne. Et c'est normal, parce que nous avons un combat extraordinaire à livrer à tous les jours contre Satan. Et, c'est pas là, nos jeunes ne sont pas ici, mais en tout cas, ils vont avoir la possibilité de l'écouter. Et on a trois ennemis en commun. Donc, c'est un combat sur trois fronts, trois dangers dans nos vies. Premièrement, on doit lutter contre le monde. C'est pas facile. Jacques 4,4 nous dit ceci: « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Il y a des choses qui sont attrayantes dans le monde. C'est pas facile, mais c'est... Oui, c'est facile de dire, bon, ben là, je vais sauter à la créature, puis je vais faire quelque chose de pas correct. Quel rapport avec le monde? Ce qui va nous garder, c'est la prière. La prière est la parole de Dieu. Deuxième lutte. On doit lutter contre la chair, un allié du monde. Galates 5,16. Je dis donc, Paul dit aux Galates, marchez selon l'esprit. Hein? Ne vous et vous, c'est-à-dire marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Vous savez, j'ai prêché là-dessus comme des aimants qui s'opposent. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Puis inquiétez-vous pas. Plus on est spirituel, c'est-à-dire proche du Seigneur, plus le combat est difficile, mais plus l'aide vient. Plus on voit l'omnipotence de Dieu. Finalement, nous avons à lutter contre tout un monde spirituel, comme le dit Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pas facile, hein? Il y a un monde spirituel autour de nous, de démons, ces anges, qui cherchent à nous faire tomber. Éphésiens 6, 18 nous dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Si on veut combattre, faisons par l'Esprit toutes sortes de prières. Ça veut pas dire parler en langue ici, là. Faisons des supplications. Veillons à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est-à-dire, prions les uns pour les autres. On a besoin de chacun de nous. Le combat dont je vous parlais tantôt, il se livre dans les lieux célestes parce que on appartient à Christ. Et parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Hein, je vous avais raconté que la plus jeune chez nous avait demandé, avait dit, elle avait la misère à croire qu'elle était sauvée. Puis, un soir, on l'a rencontrée, moi et Joanne, puis on a parlé avec elle. Puis on lui disait: oui, mais regarde, qu'est-ce qui se passe? Mais elle dit: à chaque fois que si j'ai péché, j'ai tout de suite une voix qui me dit de me repentir. Puis elle dit: c'est difficile pour moi de lutter, mais j'ai dit: t'as besoin. Des outils que le Seigneur te donne. Puis quand que tu pêches et que l'Esprit te parle, tout de suite, là, c'est peut-être parce que tu appartiens au Seigneur, puis le Seigneur veut que tu te repentes. Parce qu'actuellement, les gens qui... je ne dis pas que c'est une preuve exclusive du Seigneur, mais pour nous chrétiens, c'est quelque chose qui vient... Il vient nous dire tout de suite: hey, pas correct ce que tu fais. Tu as lutté, mais tu l'as fait quand même. Puis là, le Seigneur te donne le privilège de te pardonner encore, de lui demander pardon. Un chrétien authentique. Est inévitablement impliqué dans cette guerre spirituelle. La vie chrétienne, c'est une bataille, parce que lorsque Dieu bénit, le diable attaque. Et chacun des enfants de Dieu ici ce matin, qui veut obéir, qui veut servir de plus en plus son Seigneur, sera de plus en plus en guerre contre le prince de ce monde. Celui qui décide de mettre sa vie en règle en désirant grandir dans la connaissance, dans la communion et dans le service au Seigneur va constater que cela ne se fera pas facilement. Allez dans Matthieu 17, 20, là, il est au. C'est pourquoi nous avons tant besoin de la prière. Et regardez, c'est à cause, Paul dit, pas Paul, mais Matthieu, le Seigneur dit dans Matthieu 17, 20, c'est à cause de votre incrédulité, là, incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Évidemment, le Seigneur utilise une image, et je sais que plusieurs auraient quelque chose à dire sur les montagnes qui ont été transportées. Et neuvièmement, la prière, c'est de donner à Dieu accès à nos besoins. Quelqu'un a dit de prier n'est rien de plus que de laisser Jésus connaître nos besoins. Prier, c'est donner à Jésus la permission d'employer sa puissance pour alléger notre détresse. Prier, c'est permettre à Jésus de glorifier son nom au milieu de nos besoins. Et prier ne comprend rien de plus que d'ouvrir la porte et de donner à Jésus accès à nos besoins en lui permettant d'exercer son propre pouvoir et en s'en occupant. C'est une définition fondamentale de prière. La prière, c'est exprimer notre dépendance totale à Dieu et que tous nos efforts seuls ne serviront à rien. La prière, c'est la voix du mendiant conscient de sa pauvreté, demandant à quelqu'un d'autre les choses dont il a besoin. Ne pas prier, c'est non seulement déclarer que nous n'avons besoin de rien, mais c'est admettre qu'on ne se rend pas compte de ce besoin. J'avais une dixième, mais je vais juste la dire parce qu'elle est sur votre. La prière, c'est la conversation entre deux personnes qui s'aiment. C'est une histoire de cœur. C'est plus qu'une obligation. C'est mon cœur qui désire d'être en contact avec celui que j'aime le plus. Et c'est la même chose pour les personnes qui tombent en amour, hein, qui trouvent difficile de penser à autre chose qu'en la personne qu'ils aiment. Pope MacDonald a dit ceci, « J'aime considérer la prière comme étant une conversation entre deux amis qui s'aiment et qui se comprennent. » Donc, d'ici trois semaines, on va aller dans un peu plus profondément ce qu'est la prière que Dieu aime et ce qu'est la prière que Dieu n'aime pas. On va commencer avec celle que Dieu n'aime pas. On va finir avec celle de la prière qu'il aime. Merci, mon Dieu, pour la patience et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour mes frères et mes sœurs qui... malgré cette chaleur, ils sont ici. Mais ici aussi, surtout pour le temps qu'on passe ensemble, pour cette communion. Et Père, enseigne-nous à prier, comme tu l'as enseigné, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, afin que nos prières puissent être des prières centrées sur tout ce qui a été dit ce matin dans ta parole. Et qu'on puisse sentir le besoin d'appartenir à un Dieu tout-puissant qui nous aime et qui veut notre bien. On prie en Jésus. Amen. Demandez à mon Père de...
Madame Chatelier, je vais s'avancer pour les attendre.